La physique compte beaucoup parce que la physique, c'est le passeport de quelqu'un.
L'histoire a un corps. Dernier épisode, le corps ordinaire d'aujourd'hui.
Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, la mode a beau revenir aux cheveux relevés, les belles madames de 1900 qui se faisaient émailler le visage paraîtraient aujourd'hui ridicules. L'habitude du grand air et du sport nous fait trouver plus belles et combien plus désirables les femmes qui ont le teint mat, mat comme un beau fruit sain, mat comme un pétale de rose. Il y a une crème qui vous donnera ce teint mat et velouté, c'est la crème Simon M.A.T. Vous devez la voir sur votre table de toilette dans son pot noir capuchonné d'argent. Vous en servir à chaque fois que vous devez sortir ou recevoir. Placée à côté du pot blanc de crème Simon, elle complétera votre arsenal de beauté.
Crème Simon M.A.T. Les deux amis de ma beauté.
Les deux amis de votre beauté.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Et l'ami de votre beauté, tiens, c'est un titre qu'on retient, un titre de la presse sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir. C'est, comme hier, Pascal Horry, contributeur de l'histoire du corps, de l'histoire de la virilité, aux éditions du Seuil, auteur d'un livre, on le disait hier, sur le bronzage. La voix qu'on entendait, c'était celle de Louis Merlin, qui a fondé Europe 1. Alors ça nous ramène à il y a plus d'un demi-siècle. Et il évoque la beauté des années 1900. Le corps, par rapport à 1900, eh bien, il a connu une véritable révolution culturelle.
Tout à fait, mais ne remontons même pas à 1900. Nous sommes en 2019, sauf erreur. Le corps de 1919, le corps de 2019 sont incomparables entre eux. C'est vertigineux d'imaginer les transformations du corps standard. Hein. Je ne parle même pas des grands sportifs, des bodybuildés, etc.
Si on organise l'histoire du corps, en occurrence, on aurait peut-être pu penser à le faire dès le début de la série. Vous en voyez combien d'occurrences ? 1, 2, 3, 4, 5 ?
J'en voyais 5, par exemple, en y réfléchissant, en venant jusqu'au studio, là, comme ça. Il y a quand même le corps nourri, hein, c'est fondamental. Le corps soigné, c'est aussi fondamental. Mais il y a aussi le corps exercé, le corps paré, et puis le corps instrumentalisé, c'est-à-dire le corps en rapport avec la politique jusqu'à la guerre comprise.
Oui, parce que la transformation du corps, elle est contemporaine dans le XXe siècle, de grandes épreuves pour le corps.
Ah oui, ce n'est pas toujours un corps glorieux, même si à mon avis on a beaucoup discouru et quand même beaucoup pratiqué le corps glorieux. Vous évoquez le bronzage, on parlera d'autres formes de glorification du corps, le sport, etc. Mais c'est une période de guerre mondiale, de génocide, de déportation, de transfert de population. C'est l'époque du triomphe et puis du déclin d'ailleurs, du taylorisme. Donc le corps, il est à rude épreuve. Mais en même temps, par exemple, prenez le taylorisme, c'est l'époque où on invente l'ergonomie. C'est-à-dire que je voudrais pas citer un personnage qui est peu cité aujourd'hui et auquel je n'adhère pas forcément, Karl Marx, qui dit que l'homme ne se pose que des questions qu'il peut résoudre. Donc les questions posées par le corps du XXe siècle ont trouvé des solutions quand même au XXe siècle.
Et puis nous avons choisi de présenter un profil heureux. Alors parlons du corps paré, du corps nourri peut-être, nourri par les crèmes de beauté, c'était la publicité de Merlin, le corps paré dans les instituts de beauté et par l'industrie afférente. La voix que vous allez entendre, on l'écoute assez rarement. Elle est l'objet d'une exposition qui vient de se terminer au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. C'est une voix venue de Pologne. La dame que vous allez entendre a commencé sa carrière, mon Dieu, en 1902 à Melbourne, en Australie. Et elle a créé un établissement de beauté à Paris avant la Première Guerre mondiale. On l'entend après la Seconde Guerre mondiale. Elle souhaite la bienvenue dans son hôtel particulier de l'île Saint-Louis aux journalistes.
Vous êtes tous les bienvenus, mais vous savez, j'aime mieux choisir les œuvres d'art qu'en parler. J'ai toujours eu la passion de la collection. À 7 ans, je collectionnais les poupées anciennes et moderne de tous les pays.
C'est déjà un commencement.
À 11 ans, c'était les petites cuillères qui m'intéressaient.
Les petites cuillères?
Tous les gens de ma famille avait pris l'habitude de me rapporter toujours une petite cuillère de toutes les villes où elle passait. Maintenant, je vous quitte et vous remets aux mains de Monsieur Su.
Grand architecte à qui elle a confié les travaux de transformation du 24 quai de Béthune, dont elle a loué le premier étage à Georges Pompidou,
peu avant des grands noms de,
qu'il ne
devienne
Art Déco, Premier ministre.
Su.
et le grand nom de la beauté qu'on vient d'entendre, c'est
Elena Rubinstein, à qui on ne doit pas l'invention de la fameuse formule qui d'ailleurs fait réfléchir, Institut de beauté. C'est très anoblissant. Ça, c'est une invention française 15 ans avant l'arrivée d'Elena à Paris. Mais elle va en quelque sorte internationaliser et industrialiser ce que les Français avaient créé Place Vendôme et sans sortir de la Place Vendôme. C'était l'Institut Clitia qui avait inventé la formule Institut de beauté.
Des instituts de beauté, de la publicité aussi sans doute. Des esthéticiennes qu'elle forme?
Oui, regardez le mot esthéticienne, c'est très lourd. C'est comme bronzage qui fait allusion à la sculpture la plus noble de l'Antiquité, etc. C'est valorisant. C'est une stratégie, dirait-on aujourd'hui, de communication, hein, que de parler d'esthéticienne.
Mais il y a une photo dans l'histoire du corps où on voit une batterie d'esthéticiennes qui apprennent les rudiments de la culture. Elena Rubinstein, comme aujourd'hui, on apprendrait les rudiments d'une grande culture, de grande entreprise.
C'est la taylorisation à l'usage des cosmétiques, tout à fait. Et ça marche, bien entendu, parce que ça veut dire qu'on est d'abord maîtresse, paradoxalement maîtresse de son corps. Cette fameuse photographie que j'avais reproduite effectivement dans le livre dirigé par Georges Vigarello, Alain Corbin et Jean-Jacques Courtine est très impressionnante parce qu'on voit bien que c'est la culture américaine quelque part qui vient chez nous, bien que Elena soit passée par l'Australie. Il y a quelque chose d'un systématisme et d'une hygiène aussi, la volonté d'être belle mais hygiénique. Et ça, c'est vraiment très lié au puritanisme protestant.
C'est plus important, Rubinstein, pour vous presque que Poiret, Chanel ou Patou qu'on citait longuement hier. Il y a des noms symétriques. Estée Lauder, d'autres maisons comparables.
C'est important parce que c'est un modèle qui va triompher à l'échelle du monde, et y compris en France par rapport aux petits instituts de beauté initiaux. Mais Patou et les autres sont généralement révolutionnaires. Patou, on en a parlé hier dans l'émission, est quand même le premier qui, bien avant Elisabeth Arden ou Elena Rubinstein, qui a inventé une huile bronzante. Les instituts de beauté sont à la traîne. Ils sont même schizophrènes, c'est-à-dire pendant un certain temps, Elena Rubinstein ou Elisabeth Arden proposent à la fois des produits bronzants, avec beaucoup d'hésitation, et puis des produits éclaircissants. Et le public au départ n'acceptait pas le côté mat. Il a fallu une petite avant-garde dans les années 20 qui disent « exposez-vous au soleil ».
Alors la transformation du corps au long du XXe siècle, elle est instrumentalisée par des secteurs entiers de l'économie. Aujourd'hui, après les instituts de beauté, vous avez, je ne sais pas moi, les cabines duvet ou les salles de musculation. Corps nourri, c'est une des occurrences, la diététique.
Oui, parce que la diététique, c'est une très vieille histoire, dans un certain sens. Quand vous vous penchez sur ce qu'on appelle la médecine dans l'Antiquité grecque, la plus ancienne médecine dont on ait conservé vraiment des textes, des corpus, Hippocrate et compagnie, reprise d'ailleurs au Moyen-Âge, c'est essentiellement une diététique. D'ailleurs, les chirurgiens qui passent leur temps à se chamailler gentiment avec les médecins disent que, au fond, la médecine ne guérissait pas jusqu'aux antibiotiques qu'elle soignait et que eux, éventuellement, pouvaient guérir. Et c'est vrai que le maître mot, c'était la diète. Mais diète en grec, dans le grec de l'Antiquité, c'est genre de vie. C'est-à-dire qu'il faut changer votre genre de vie. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. D'ailleurs, sur ce plan-là, on n'a pas beaucoup bougé. Ce qui a changé, dans l'entre-deux-guerres, c'est l'apparition de méthodes rigoureuses, là, qui partent du laboratoire, de composition des aliments. Vous savez, les fameuses compositions qui sont maintenant obligatoires, hein, qui sont présentes sur tous nos aliments, mais parce qu'il y a une obligation, ça date de cette époque-là seulement, c'est pas si vieux. Hein.
Tout encore l'importance à souligner de la médecine dans la transformation du corps au XXe siècle, la médecine qui intervient aussi sur le remodelage, la chirurgie plastique.
La chirurgie plastique en particulier, on a dit souvent, c'est pas complètement inexact, que les guerres, en particulier la première guerre mondiale, qui annoncera la seconde, mais d'abord la première guerre mondiale, vous pensez aux gueules cassées, etc., avait fait faire des progrès de géant à la chirurgie plastique. Mais c'est intéressant de voir que c'est au lendemain de la première guerre mondiale, aux États-Unis, bien sûr, aux États-Unis, qu'on voit se développer une réflexion systématique et qui va être imitée un peu partout sur ce qu'on commence à appeler effectivement la chirurgie plastique. Et là aussi, c'est un terme qui tire vers l'art. Hein. C'est-à-dire que votre corps va être modifié dans le sens d'une plus grande beauté. Hein. Stratégie marketing.
Sauf qu'on ne sait plus qui est qui. Et ce n'est que le début des interrogations.
Dimanche 17 août 1969, l'aube ne s'est pas encore levée et la musique ne s'est pas interrompue. Une troupe endiablée, multiraciale, emmenée par une sorte de messie sauvage, Sly and the Family Stone, a réveillé les morts de Woodstock. Déjà secoués par la découverte du groupe Santana, des centaines de milliers de personnes assistent en pleine nuit à la naissance d'une nouvelle musique, une transe qui entraîne le public dans une frénésie collective qui ne sera pas du goût de tout le monde. Faisons un petit saut en avant. Dans la patrimoniale émission de France Inter, Le Masque et la Plume, qui existait déjà en 1970, on s'affronte à propos du film documentaire consacré au festival de Woodstock. 3h30 de cinéma montré au festival de Cannes avant de sortir en salle à la rentrée 1970.
Nous sortons d'un film qui s'appelle Woodstock. Et j'ai l'impression que ça va être très important sur un plan, non pas cinéma, mais sur un plan sensibilité, que nous découvrons une espèce d'univers dément et qui est aussi un univers un peu fasciste, il faut le reconnaître, quoi. Quand ce groupe noir chante ailleurs et que toutes les 500 000 types qui sont là lèvent la main et font ailleurs, ailleurs, on a l'impression d'être au congrès de Nuremberg.
Bon. Mais ah si oui, je... bah, congrès de Nuremberg tout de même, mais où les gens sont à poil et...
On a quand même plus entendu. C'est le film qu'on a fait de la grande manifestation de Woodstock.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
C'est un extrait de la série Assayas, Ronxin de cet été consacré à Woodstock que vous pouvez réécouter par l'application Radio France, tout comme la marche de l'histoire qui est consacrée aujourd'hui, c'est le dernier épisode, à l'histoire du corps. Alors, tel ou tel au Masque et la Plume était réticent en 1970. Je voulais vous soumettre, Pascal Horry, les commentaires du Figaro de la semaine passée sous la signature d'un polémiste réactionnaire québécois, Mathieu Boccoté. C'est le début des états de conscience refoulés par une civilisation coupable d'avoir enrégimenté l'homme et qui en appelle à un caractère ludique, onirique, vapeureux, insaisissable de l'existence. C'est le début du culte de la fluidité identitaire. C'est-à-dire que on ne voit plus les identités sexuelles, elles sont comme néantéisées, dit Mathieu Boccoté, par cette époque enivré par l'envie de tout déconstruire.
Il y a à la fois un constat qui est négatif pour cet auteur, qui peut être positif pour d'autres, y compris pour moi, mon avis ne compte pas de toute façon, à savoir que la fluidité plus grande des identités ne peut pas être niée. Il y a une sorte, par exemple, d'unisexualisation dans le vêtement, qui est une des grandes constantes de l'évolution du XXe siècle. Le port du pantalon pour les femmes, les cheveux longs pour les hommes, on pourrait multiplier les exemples. La culture gay, à partir des années 70, quand elle sort du placard, va certainement influencer le vêtement de l'homme, etc. etc. Donc, cette tendance est quand même fondamentale. Elle s'est accrue dans les années 70, vous savez, quand il y a des chanteurs pop, comme on disait, se sont mis à sortir avec des jabots de dentelle et des cheveux bouclés. Bon, c'est l'identification sexuelle en prenait un sacré coup. Bon, voilà. De la même façon, le dénudement, puisqu'on parle de Woodstock. Le fait que le corps, alors, en particulier de la femme, qui est quand même le corps le plus protégé, on le voit bien quand on parle de la burqa ou même du burkini, etc. aujourd'hui. Donc, le dévoilement de la femme, c'est quand même quelque chose de considérable. Ça commence avec la coupe de cheveux des femmes. Faut pas oublier Saint-Paul. Faut jamais oublier Saint-Paul. C'est un principe, vous êtes bien d'accord. Saint-Paul dit dans un, je sais plus quel épître, que, en Corinthiens sans doute, que les cheveux sont le voile de la femme. C'est-à-dire, se couper les cheveux, c'est d'une violence. Bah, c'est les années 20, hein, 10, 20. Donc, il y a un dénudement général, en particulier du corps de la femme, de cette citadelle qui était protégée depuis des siècles. Et ça, c'est un bouleversement intégral.
Jusqu'à faire parler le corps sans mots pour dire « je suis sexuel ». Le mot gay, ça veut dire ça aussi dans le vêtement.
Bien
je
sûr,
suis sexe. Bah
de même que il y a une culture SM qui a influencé le vêtement ordinaire. qu'aujourd'hui. En tous les cas, le vêtement de la séduction, des sorties, etc.
Le SM jusqu'aux chaussures, dites-vous, a de l'influence.
Oui, si exemple. Vous regardez l'évolution, pas simplement le SM, d'ailleurs plus généralement la culture qu'on qualifierait de pornographique, finit par influencer une partie de la chaussure, de la coiffure, du vêtement, etc. On peut le reconstituer. Ça demande 50, 70, 80 ans.
Dites-moi, la fluidité identitaire, ça peut provoquer le malaise. Mathieu Bock-Côté dirait que les hommes sont un peu gênés d'être dévirilisés. C'est un thème réactionnaire courant, revirilisés, la jeunesse. Un signe, un peu faible peut-être, mais on peut le lire comme tel, c'est celui du travail de la barbe. Nous sommes ici avec un youtubeur, Vince Legg, enfin entendez Vesley.
Le poil est de retour chez les garçons. En fait, dans les tendances, on est passé du rétro-sexuel qui faisait pas attention à lui, au lumber sexuel. Mélange de sauvage et d'apprivoisé.
On va penser que le poil n'est plus un adversaire, mais quelque chose qu'on va pouvoir contrôler.
Salut les amis, c'est Winslag. Aujourd'hui, nous allons voir comment tailler sa barbe. C'est parti.
Les tutos de Winslag.
Alors pour ce tuto, nous allons avoir besoin d'une brosse à barbe en poil de sanglier, d'huile à barbe, d'une tondeuse à barbe, de petits ciseaux avec les bouts arrondis, d'une chavette, de lame pour la chavette, d'un rasoir de finition, un guide pour les contours. Première étape, on va se mettre un petit coup de brosse à barbe. Hop.
Bah, il en faut des instruments pour combattre la dynamique qui confond virilité et féminité.
Alors effectivement, comme vous, visiblement, on peut surinterpréter le phénomène et considérer que c'est une sorte de résistance ou de réappropriation virile. Pourquoi pas? En tous les cas, il faut préciser aux auditeurs ou aux auditrices que ce dont nous parlons fait l'objet de nombreuses recherches et débats très sérieux chez les historiens et les anthropologues. Sur le poil, par exemple, il y a de plus en plus de travaux. Christian Bromberger, Jean-Marie Le Gall, historien ou anthropologue, travaillent sur le poil. Ce sont des vrais sujets, vous savez.
Expliquez.
Bah, justement, le fait d'abandonner vers la fin du 19e, début 20e, la barbe, puis la moustache, ça dit beaucoup de choses sur une citadinisation, sur une lutte contre la dimension supposée un peu sauvage quand même, guerrière à l'ancienne de la barbe. Et le retour aujourd'hui se fait dans un tout autre cadre, et c'est évident. Enfin, tout ça est faible, comme vous le disiez, c'est un signal faible par rapport... Ces vraies révolutions après le bronzage, une génération après, 30-40 ans après, que sont le tatouage et le piercing.
Ah, alors allons-y pour le tatouage et le piercing. Pascal Horry devant un amphithéâtre.
Oui, c'est une réflexion que je me faisais, mais pas trop parce que ça pouvait me faire trébucher dans mon discours. Mais devant moi, en ce moment, dans un amphithéâtre standard d'université, je pense que la majorité des garçons et des filles que j'ai devant moi sont tatoués. Ça se voit pas forcément, mais ils sont tatoués. Et quand je pense à mon époque, c'est vertigineux, parce que je pense qu'il y en avait très 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 peu, pour ne pas dire aucun, qui était tatoué. Ça veut simplement dire que vous imaginez que depuis des milliers d'années, l'Occident mettait à distance. C'était propre à certaines civilisations extra-occidentales, et puis à des petits milieux, des sortes de franc-maçonnerie, la Home Fleet par exemple, et surtout les hiérarchies supérieures de la marine anglaise étaient supposées admettre le tatouage entre hommes, et vraiment dans la bonne société.
Le roi Frédéric de Danemark était tatoué de haut en bas.
Et vous aviez les marginaux, les bagnards, etc. Donc quand même des gens qui étaient périphériques, par le haut ou par le bas. Maintenant, ça devient universel. Même chose pour le piercing. Et tout ça se produit au même moment. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette bascule. Au milieu des années 70, je n'hésite pas devant les termes, notre monde bascule. Le monde dans lequel nous sommes cet après-midi en 2019 est largement né au milieu des années 70. La fin de quantité d'espoir politique, etc. Bon, après la chute de Saïgon, et ben c'est en 75, comme par hasard, que se crée le premier magasin voué au perçage, au piercing. C'est en 75-76, ça se passe en général en Angleterre ou aux États-Unis, évidemment. C'est pas forcément lié à la mode punk, mais la mode punk qui contribue, que se développent les premières conventions de tatouage. Donc il se produit des choses fondamentales sur notre rapport au corps. Hein.
Mais encore à ce moment que vous situez, y avait-il un fort aspect de dissidence, de revendication de la dissidence, de provocation dans le piercing ou le tatouage.
C'était relativement provocateur, c'est beaucoup plus encore, en effet, beaucoup plus pour le piercing ou le perçage et pour le tatouage. Mais ça commence par une avant-garde et en général, vous savez, grosso modo, ça va défriser peut-être certains auditeurs auditrices, ces grands changements culturels partent du haut et non pas du bas. Voilà, c'est pas démocratique, c'est up to bottom, c'est pas bottom to up.
Bah,
c'est
ça parti. Part des enfants qui veulent provoquer leurs
parents.
Les
punks, c'était une avant-garde. Oui, mais bien sûr. Oui, mais pourquoi est-ce que ça leur prend en 1970, pas en 1930, pas en 1815, vous voyez ? C'est ça qui est intéressant. Eh oui.
Témoignages, on en entend beaucoup actuellement sur les chaînes d'information. Pensons à France Info Télé.
Les premiers rayons de soleil découvrent les tatouages des clients de cette terrasse de Bordeaux. Dans ce salon, cette jeune fille a choisi un motif polynésien qui représente l'amour et les membres de sa famille.
Moi, je ne regretterai pas parce que je sais que c'est quelque chose que j'aime, donc c'est mes frères que je représente. Je sais que je ne le regretterai pas.
Et pour ce garçon, ce samouraï symbolise sa victoire contre le cancer.
Pendant ma chimiothérapie, je me suis dit que si je m'en sortais, bah je ferais ce tatouage. Donc j'ai fait ça pour m'en rappeler un peu, quoi. Enfin, pour dire que j'ai vaincu la mort.
Il y a le côté œuvre d'art, il y a le côté pièce unique, l'esthétique. Ça m'embellit, je trouve.
Ça a choqué certaines personnes. Bah, pourquoi un tatouage? Je comprends pas. Pourquoi se faire ça à son corps? Ça fait partie de moi, je fais plus attention. Donc, je fais plus attention au regard des gens non plus par rapport à ça.
Oh, il est magnifique. Ça veut dire quoi?
La rose n'a d'épines que pour qui veut l'accueillir. C'est ma devise.
Mais non, c'est écrit sauce sucrée, sauce salée.
Un petit peu d'ironie est nécessaire. Mais vous dites que c'est une grande transformation du présent. On pourrait expliquer aussi que quand on se tatoue, on raconte un événement qu'on a connu, un moment qu'on voudrait revoir. Enfin bref, c'est comme un tombeau. C'est un signe du passé.
Ah mais peu importe, l'essentiel c'est que ce soit sur mon corps. Alors l'hypothèse pas très originale, c'est de prononcer le mot individualisme. Pour moi il y a toujours eu des individus, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez Jean Lebrun, à l'époque de Cro-Magnon il y avait des individus. Mais l'individualisme en revanche, cette idée que l'individu est le centre vers lequel tout converge et à partir duquel tout va irradier, ben, ça se montre bien dans le fait que mon corps lui-même... Ce qu'il y a de plus profond, c'est la peau. Il va devenir une œuvre d'art, d'ailleurs. Hein. Le bodybuilding, c'était un peu élémentaire. Maintenant, tatouage et piercing, je suis une œuvre d'art.
Chacun est sa propre
origine. Je suis customisé, bien sûr.
Comme une vieille voiture.
Oui, pourquoi une vieille voiture comme un jeune corps?
Chacun est sa propre origine. Ah, c'est la signature de soi.
C'est une signature. Je me signe moi-même. C'est pas, peut-être, alors, la question de l'origine va se problème. Non, c'est une signature.
Enfin, Rémi Sistiaga, qui est à la technique de l'autre côté, me murmure « Ouais, moi, je me tatoue quand ça va pas bien. »
Eh ben oui, mais c'est l'individu qui, en question qui prend la décision. C'est quand même important. Et qui n'attend pas l'ordre de la société de savoir si c'est admis, si ça se montre ou si ça se montre pas, ou si c'est érotique ou pas.
Le body art, lui, en revanche, n'a eu jamais qu'un succès limité au long du XXe siècle. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs?
Ça continue quand même, ouais. Orlan, etc.
Qu'est-ce que c'est?
Dans le cas d'Orlan, par exemple, ça veut dire que mon corps est non seulement une œuvre d'art, mais est transformé en permanence, comme si chaque année j'organisais une exposition plastique différente de mon corps. Hein. Bon, ça, c'est vraiment une sorte de Finistère, là, on peut difficilement aller plus loin. Mais c'est lié aussi à la technologie, parce qu'une bonne partie de ce qu'on dit, c'est pas la technique qui le détermine, mais nous inventons la technique qu'il faut. Donc nous avons les techniques de chirurgie plastique qui permettent effectivement de nous transformer de plus en plus. Oui.
Ce n'est pas la technique qui détermine, c'est l'histoire culturelle qui commande.
Bien entendu. Regardez, c'est ce que beaucoup d'historiens, d'ailleurs justement Georges Vigarello ou Alain Corbin l'avaient bien montré, c'est l'adduction d'eau. C'est une conséquence d'un changement dans l'esprit des contemporains sur l'hygiène. C'est parce qu'on change d'anthropologie du corps, parce qu'on devient obsédé de façon puritaine par l'hygiène, qu'on généralise l'adduction d'eau. Alors qu'avant on disait, oui, on a compris, on devient plus hygiénique parce que... Non, c'est le contraire, bien sûr.
On peut faire le point pour finir, là, c'est le dernier épisode. 5 occurrences, disiez-vous, permettent d'organiser une histoire conséquente du corps.
Pour s'y retrouver, oui.
Alors, allons-y.
Corps nourri.
Ouais. Corps nourri, ouais. On a été bref, non?
Oui, on a laissé de côté, ce sera une belle émission, parce que ce sera le grand siècle de ça, du végétarisme. C'est fondamental. Et contrairement à une légende végétarienne, le végétarisme est un mouvement récent, essentiellement du 19e siècle, venu du monde protestant anglo-saxon. Mais c'est fascinant de voir la rapidité avec laquelle ça progresse.
Ah, le monde protestant comme origine d'un comportement particulier
de la modernité, beaucoup d'éléments de la modernité, positifs ou négatifs, viennent du monde protestant.
Regardez vos Quaker Oats au petit déjeuner.
Ah bah oui, alors là c'est tout à fait clair. Les céréales au petit déjeuner ont été inventées par des végétariens anti-alcooliques, les frères Kellogg. Et ils ont réussi leur coup. Et ils ont même inventé le lait de soja, après. Parce qu'il ne fallait pas que le lait sorte du pis de la vache.
Le corps nourri. Le corps nourri, et puis
le corps soigné.
Bon, ça, on a beaucoup parlé des médecins.
Et actuellement, on en est au stade où la génétique génère... D'ailleurs, regardez la PMA dont on parle tellement. Il est évident que, sur ce plan-là, c'est l'évolution scientifique qui a déterminé nos débats. Parce qu'on a désormais la possibilité, en particulier de l'eugénisme. Belle émission. Nous sommes actuellement pleinement eugénistes. On parle des nazis, etc. Je suis désolé de faire remarquer que nous sommes très eugénistes. Nous allons l'être de plus en plus. Il va falloir assumer. Mais c'est-à-dire que nous sélectionnons déjà, dans le cadre de la PMA, j'en sais quelque chose, puisque moi je suis père et grand-père, quelque part, on sélectionne les gamètes, on sélectionne les spermatozoïdes, etc. C'est de l'eugénisme. Il faut l'assumer, ça. Hein, c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt.
Troisième occurrence.
Le corps exercé. Le sport, la gymnastique bien sûr, mais les sports de l'extrême aujourd'hui, regardez, c'est un peu ce qu'on disait sur les réactions, le sport de l'extrême, dans une société qui en fait est plus pacifiée que jamais, on se met en danger par les sports d'extrême. Dans une société qui se prétend ou qui est de plus en plus écologique, on fait des sports d'environnement, on fait de la randonnée, on fait de la plaisance, oui. C'est très intéressant de voir l'évolution fondamentale des sports.
Mettons de côté, ça sera la cinquième occurrence, l'occurrence politique, il nous reste encore...
Le corps paré, dont on a beaucoup parlé avec Elena Rubinstein, etc., ou le bronzage ou le tatouage, c'est clair que sur ce plan-là, les changements ont été vertigineux.
Le corps instrumentalisé politiquement.
Oui, parce qu'à chaque époque, son instrumentalisation du corps, pour rester sur le XXe siècle, c'est plus qu'un siècle des grandes guerres, et c'est un lien, bien entendu, c'est le siècle des grandes expériences totalitaires. C'est ça qui va rester. Et d'ailleurs de leur échec jusqu'à présent. Le plus grand échec étant celui de 1917, entre parenthèses. La Commune de Paris a duré 72 jours, l'Union soviétique a duré 72 ans. Donc c'est une grande expérience totalitaire. Mais bien sûr, il y a le fascisme, le nazisme, etc. Et au total, on voit bien comment ça a un lien avec le développement du scoutisme, avec la militarisation de la jeunesse, le culte de l'uniforme, le fait que, alors là, organiquement, la société ne fait plus qu'un. Il y a eu la version maoïste de tout ça. Ça, c'est très important. Bien entendu, ça a généré aussi des génocides, des formes d'extermination qui touchent précisément le corps, mais d'une façon quasiment industrielle. Donc, clairement, on pourrait quasiment interpréter l'histoire politique de n'importe quel pays et de n'importe quelle période dans son rapport au corps, et on apprendrait beaucoup de choses.
Merci à vous, Pascal Horry. Vous ouvrez de nouveaux horizons au moment où s'achève notre premier périple de la saison. L'émission a été réalisée par Audrey Ripouille, l'équipe de la Marche de l'Histoire et d'Inca Negulesco, Franck Oliva, Frédéric Martin et Rémi Sistiaga à la technique. Application Radio France, l'émission, la série est podcastable plus que jamais. Et puis le vendredi, nous reprenons la tradition des archives ou des témoignages demain, des sons exceptionnels parce que très rarement entendus sur la libération de Paris.